les jardinières.
Préparez vos pelles, vos râteaux et vos pets et vos bêches, pour les pêches aussi. Soyez les bienvenus chez les jardinières. Bonjour Sève.
Bonjour Mylène. Alors moi, je ne sais pas si je suis la pelle, le râteau ou la bêche.
Vous êtes le pruneau.
Allez, un pruneau pour la journée, youhou.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Jean-Pierre Ribaud est avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuve. Donc merci d'être avec nous ce matin.
Et c'est parti pour une heure au jardin.
7h, 8h, les jardinières.
Gentiment mais sûrement, l'été nous lâche et les températures baissent. Dites-nous Jean-Pierre, quelles sont les tâches qui attendent les jardiniers au potager ce week-end ?
Oui, eh bien, c'est les week-ends de septembre où on peut encore faire passablement de récolte dans ce potager, ce qui aurait été mis en place dans le printemps et durant l'été. Hormis les récoltes, ce qu'on peut faire, c'est les semis de roquettes, pissenlits, on peut mettre encore des épinards, des radis d'hiver, on peut semer les oignons blancs. Il y a encore passablement de petites plantes qu'on peut semer, qu'on peut réaliser et mises en place pour avoir des récoltes encore cet automne ou préparer les récoltes du printemps.
Merci Jean-Pierre, vous restez avec nous jusqu'à 8h pour poser vos questions, vous qui nous écoutez, à notre spécialiste. Il y a trois possibilités. Par téléphone au 0900 70 20 20, c'est 36 centimes la minute. Vous pouvez passer également par les SMS, vous mettez juste jardin au début de votre message, vous laissez un espace, vous tapez votre question et votre prénom et vous envoyez ça au 939. Enfin, vous pouvez également remplir le formulaire disponible sur notre site internet.
Et on se retrouve dans quelques minutes. On va parler des haies. Ce matin.
Les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, nous allons en apprendre un peu plus sur les haies. Les haies peuvent être originales et esthétiques. Elles animeront votre jardin tout au long de l'année et nous découvrirons également ses nombreux autres avantages. Jean-Pierre, on va tout de suite commencer avec la question qui fâche. Pourquoi les haies de Tuya n'ont plus la côte ?
Eh bien, elles n'ont plus la côte parce que le changement climatique nous amène passablement de problèmes sur ces haies. Et puis, le tuya est une plante qui est quand même exigeante. C'est pas si simple d'avoir une jolie haie. Ça veut dire qu'une haie ne supporte pas une zone trop humide parce que le tuya n'aime pas du tout avoir les racines dans une eau constante. Et par contre, à l'inverse, eh bien, on a même des fois des dégâts de sec durant les mois de janvier, février sur des haies de tuya lors des forts temps de bise. Et puis, quand on n'a pas de neige, pas de pluie, des plantations de 2 ou 3 ans peuvent subir des gros dégâts à cette période-là, alors qu'on ne peut pas s'imaginer arroser des haies à cette période. Donc, il n'a pas cette facilité d'adaptation par rapport à ce changement de température et de sec que l'on vit. Et puis, on a des dégâts énormes. Et puis, à l'évidence, il s'arrache à tour de bras, alors qu'il y a 20 ans, on les plantait à tour de bras.
On va partir sur une définition. À part de tuya, de quoi se compose une haie en général ?
Une haie peut être composée de passablement d'arbustes, ça dépend un peu de son emplacement, ça dépend du terrain, ça dépend de ce que vous recherchez au niveau de la haie. Mais on trouve une quantité de sortes d'arbustes, soit des indigènes, soit des persistants qui ne sont pas forcément de chez nous. On peut aussi réaliser des clôtures végétalisées avec du lierre ou des plantes grimpantes qui font vraiment un super effet et super facile à l'entretien. Peut-être moins cher à la mise en place et surtout à l'entretien. On a le photinia, on a l'érable, on a le charme, on a le hêtre. Il n'y a pas simplement d'arbustes. Là, c'est une question de qu'est-ce que l'on recherche au niveau de la haie. Si c'est seulement une question de parvis, ou bien si on veut rechercher de l'écologie avec une haie très indigène, ou bien colorée avec des fleurs qui s'épanouissent tout au long de la saison.
Le choix est donc très vaste. On distingue deux grands groupes de haies, la haie à espèce unique et la haie vive. Vous nous expliquez un peu ce que c'est la différence entre ces deux grands groupes ?
Oui, bien sûr. Les haies qui sont composées de différentes espèces, essences, sont des avantages, c'est qu'elle est peut-être beaucoup plus large au niveau de la mise en place dans le terrain. Parce que si vous mettez dans les viandes, dans les spiris, dans les fusains, des essences comme ça pour composer votre haie, c'est pas des essences qui sont facilement adaptables à une taille régulière pour la garder de 30, 40 ou 50 cm de largeur. Donc quand on la met en place, celle-là, elle sera plus gourmande déjà au niveau du terrain. On va laisser plus plus de distance par rapport à la limite pour qu'elles puissent s'épanouir. Et puis dans le temps, eh bien, étant donné que c'est des arbustes qui peuvent venir à 1,50 m de largeur, on peut s'imaginer qu'elle sera beaucoup plus gourmande dans le terrain. Par contre, si vous venez avec une haie d'essence unique, du style du charme, du hêtre, du photinia ou autre, eh bien là, vous pourrez canaliser cette taille de haie sur une largeur de 30, 40 ou 50 cm. Là, il faut se battre un peu avec les éléments dans le temps pour éviter d'avoir des haies qui arrivent à 1 mètre, 1,20 m de largeur, ce qu'on voit encore par chez nous, parce que là, ça pose d'autres problèmes, déjà au niveau de l'entretien, bien sûr. Et puis après, durant des hivers, ou si on peut espérer encore de la neige, elle peut encore se mettre à tanguer sur la gauche, sur la droite, ne plus rester droite, et puis bien sûr, ne pas se remettre en place.
Si on s'intéresse plus en détail à la haie vive, on l'aimerait carrément fleurie. Vous nous conseillez quoi comme arbuste pour créer tout ça ?
Alors, si on part sur une haie avec une qualité floristique, il est à l'évidence pas si facile de trouver des indigènes par chez nous pour avoir cette qualité. Par contre, si on peut partir dans des essences horticoles, bien sûr, vous avez les hibiscus, vous avez les viornes, vous avez les spirées, vous avez les potentilles. Là, le choix, il est très dense. On peut même jouer aussi un peu avec les différences de hauteur. Vous mettez un ou deux tia par dedans qui arrivera à 2,50 m par rapport à une spirée qui sera 1,50 m, 1,60 m. On peut vraiment jouer dans les contrastes, soit dans les largeurs, les hauteurs et les couleurs de fleurs, bien sûr, avec des périodes tout au long de la saison.
Et puis on pense souvent que les haies, elles bordent les bords des maisons pour délimiter le terrain. Mais est-ce que l'emplacement d'une haie a de l'importance ? Je pense par exemple si le sol est en pente, si c'est un sol rocailleux, on doit faire attention à ça ?
Alors bien sûr que la qualité de la surface, de la terre que vous avez pour la mise en place de cette haie va jouer gros dans le développement futur de votre haie. Alors à l'évidence, quand c'est sur des nouvelles constructions, que vous avez des mises en place de terre ou des choses comme ça, faut se garantir quand même un volume de terre de 50-60 cm en largeur et puis une profondeur de 40 à 50 idem, parce que bien sûr, sinon ça va pas se développer, ça va rester chétif. On le voit des fois, ces bouts de haie, tout à coup vous avez 5-6 mètres en bordure de route où elle est plutôt jaunâtre, et puis sur le reste de la propriété, elle est très verte, verdoyante. Et puis, si vous avez une surface avec un talus, que le talus vous appartient, alors à l'évidence, il faut profiter de ce talus pour mettre en place cette haie, parce qu'elle va très bien se développer dans la surface en pente, et puis vous garderez un maximum de surface plate pour vos aménagements.
Merci Jean-Pierre. On revient dans quelques minutes et on parlera cette fois de l'entretien de ces haies.
7h, 8h, les jardinières.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste à Queuves. Ce matin, vous êtes venu nous parler des haies. Alors, pourquoi en parler maintenant, en cette saison ?
Eh bien parce que à cette période, c'est la super situation pour une taille d'entretien. Parce que on s'imagine qu'on a eu la pousse printanière, l'épanouissement durant l'été, on a eu un peu de dégâts de sec peut-être, et des feuilles qui ont un petit peu noirci, brûlé. Mais maintenant, c'est la très bonne période pour les tailler, parce que elle restera très jolie, votre haie, jusqu'au mois de mars, avril l'année prochaine, avant le démarrage printanier. On est aussi en fin de période d'ensoleillement total où on a des risques de dégâts de soleil. Ça veut dire si vous faisiez une grosse taille de haie dans le courant du mois de juin-juillet avec les canicules qu'on a eues, l'impact du soleil sur les végétaux pourrait être conséquent, avoir des dégâts de soleil sur tronc, même pour des brûlures données. Donc ces tailles sont faciles maintenant, on est en fin de pousse. Les pousses sont très bien outées, on n'est plus dans les surfaces ligneuses des pousses de l'été. Et puis ça permet d'avoir une super structure pour passer l'hiver. Aussi, les arbustes, si on a une haie vive, alors là, bien sûr, la taille, elle est donnée, mais elle est moindre, elle est plus légère. On a moins de grosses interventions telles que données sur des haies de charme ou de hêtre. C'est des tailles qui se font au sécateur, ou peut-être à la scie encore, selon les éléments qu'on voudrait supprimer. C'est simplement un rajeunissement, en fait, des essences qui composent votre haie vive. On est encore juste un peu tôt au niveau de la taille des hibiscus parce qu'ils sont en train de s'épanouir au niveau des fleurs. Donc que l'hibiscus qu'on taillera un peu plus tard. Mais pour le reste, on peut déjà nettoyer nos haies, nettoyer les éléments qui seraient un peu secs, les mauvaises herbes qui seraient venues par-dessous. Ça permet aussi peut-être de lui mettre un mulchi. On aime bien les mulchis dans les haies, ça conserve le frais, ça donne de l'élément organique et puis fertilisant pour la haie, pour le démarrage. Et puis ça facilitera aussi le passage si on a un hiver froid. Et et rigoureux, eh bien, ça fera une bonne protection du sol pour protéger nos haies.
Alors, on a aussi une situation particulière cette année avec ces canicules. Est-ce qu'il y a des soins particuliers en fonction de justement de cette situation à apporter à la haie ?
Eh bien, je dirais que maintenant, non plus, parce que de toute façon, s'il y a eu du dégât par rapport à cette situation sur la haie, ce dégât, il est haie. Et puis, ce qu'il faudra, c'est plutôt se prémunir au printemps si c'est une haie qui aura très souffert de manque d'eau. On le voit, hein, c'est des haies qui sont chétives, qui sont jaunâtres, qui ont eu même des feuilles avec passablement de dégâts. Eh bien, au printemps, il faudra peut-être se prémunir d'un arrosage précoce pour compenser le manque de réserve que le plant aura fait pour un super démarrage printanier. Et puis, on peut pas intervenir durant les mois de juin et juillet par rapport à ces tailles parce qu'on a dit qu'on aurait trop de dégâts. Ça aurait été intéressant cet été parce qu'on a eu en plus un manque d'eau. Et puis, on sait que quand on fait une taille, qu'on limite le feuillage sur un végétal, eh bien, ce végétal, il va diminuer sa transpiration par rapport à ce limbe de la feuille et puis se protéger par lui-même. Alors, ce qui fait, évidemment, quand on a une grosse période de sèche comme on a eu cet été, eh bien, c'est lui-même qui se met à flétrir sa feuille, à laisser sécher sa feuille justement pour limiter cette transpiration, cette évaporation et puis garder un maximum de potentiel pour repartir.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On va continuer de parler des haies après une pause musicale météo et inforoute. On va entre autres vous demander comment bien se cacher des voisins en laissant bien pousser notre haie très très haut. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuve. On parle haies. Si vous avez des questions, on y répondra bien sûr tout au long de l'émission. Et puis, on va revenir sur ce sujet des haies, Steve.
Exactement, puisque bon, tout à l'heure, on vous a dit les soins à apporter en cette période à vos haies. Mais il y a peut-être des cas un peu particuliers, Jean-Pierre. Les haies servent par exemple souvent de brise-vue. On peut les laisser pousser très haut, histoire de bien se cacher des voisins.
Oui, bien sûr. Après, faut pas poser trop de problèmes aux voisins par rapport à un problème d'ombrage, de prise de vue ou de choses comme ça. Donc là, on a des mesures à prendre. On sait qu'il y a une réglementation qui est donnée. Il y a la base qui est cotonale. Il faut pas oublier qu'après, dans les nouveaux lotissements, dans les communes, les nouveaux lotissements, on peut avoir des plans de quartier, de lotissement. Et puis, il faut toujours se référer à ces règlements parce que ça peut simplement poser de problèmes dans le temps si vous implantez une haie fausse. Et puis, alors on sait que la base, c'est facile. C'est une haie de 2 mètres de haut. On peut l'implanter à 50 cm du fond voisin, de la limite. Encore faut-il s'assurer que ce soit pas un chemin qui soit communal et puis qu'on n'ait pas de dégagement donné pour les tas de neige à l'hiver et ces choses-là. Il faut de toute façon au minimum une banquette de 50 cm de dégagement par rapport à une surface en dur qui est une route, un chemin. Et puis à partir de là, calculer encore vos 50 cm par rapport à cette distance-là ou de la limite pour l'implantation de la haie. Et puis si vous avez décidé de faire une haie de 3 mètres, eh bien, vous devrez reculer d'autant. La différence entre ces 2 et 3 mètres, ou 3,50 mètres, ça veut dire 1,50 mètres par rapport à votre limite, pour se prémunir de ne pas porter préjudice au voisinage. Parce que sinon, eh bien, soit on va vous faire tailler votre haie, soit on va vous la faire déplacer. Il y a encore, bien sûr, les aspects qui sont dans les virages, dans les sorties de cours, de chemin, là où normalement la hauteur est donnée à, selon le lotissement, le règlement, 80 cm ou maximum 1,20 m, justement pour permettre un maximum de visibilité pour ne pas poser problème au niveau de la circulation.
Et par rapport à des haies qui sont un peu plus anciennes, qui ont peut-être poussé dans un sens ou dans l'autre pour un peu mordiller et grappiller du terrain, il y a moyen de les faire revenir un peu en arrière, de les faire pousser dans un autre sens où il faut replanter.
Alors si vous avez la chance d'avoir un feuillu qui permette de supporter une grosse intervention telle que le troène, le charme, le hêtre, eh bien, vous pourriez très bien dire une fois que vous voudrez la tailler, eh bien, vous revenez vraiment à la hauteur du tronc avec une scie, un sécateur. Vous pouvez carrément la dépecer sur un côté seulement. Là, vous allez retrouver une haie qui va diminuer de largeur de moitié, bien sûr. Et puis là, ça permettra de remettre votre haie à sa juste place par rapport à la limite ou par rapport à la zone en question. Par contre, si vous avez une haie de conifères telle que ces horribles tuyas, comme on a dit, qui pose problème, ou bien du sapin, eh bien là, ça ne permet pas de pouvoir intervenir pareillement. Si vous revenez dans les pousses de 2-3 ans derrière, au niveau de la taille, vous serez dans des éléments secs qui ne permettront pas un redémarrage de la haie. Et puis à ce moment-là, il faudra se poser la question si vraiment c'est exigé de remettre cette distance, cette limite à sa place, eh bien de soit la remplacer, soit vivre avec une haie qui sera horrible et vilaine. Ce qu'on sait aussi, c'est que si on intervient dans la hauteur, alors c'est plus facile la hauteur parce que, bien sûr, les conifères, ils auront sur la largeur une zone qui va rester dégagée et sèche, mais sur les bords, elle va de toute façon redémarrer. Pour le feuillu, à la hauteur, vous pouvez revenir à la hauteur que vous souhaitez, il va de toute façon redémarrer. Le végétal est super conçu pour lutter justement pour des élagages et puis il va redémarrer sans problème.
Alors on l'a dit, hein, une haie, ça sert de brise-vue, de coupe-vent, mais c'est aussi toute une vie. À l'intérieur. Une haie, donc, c'est plutôt une bonne idée pour la biodiversité, Jean-Pierre ?
Alors, c'est un plus, bien sûr, j'imagine. Peut-être pas le thuya, parce que c'est très mort, c'est très aride à l'intérieur.
C'est non.
Bien sûr.
En tout cas, pas pour Jean-Pierre.
Hein. Bien sûr. Non, mais si c'est après des arbustes à fleurs, si c'est des lierres palissées, si c'est des choses comme ça, eh bien sûr, ça donne des refuges. La nidification est dedans. On a aussi de la chance, parce que la taille, ben, en général, on a dit c'est août-septembre, et puis à cette période-là, on n'a plus trop de problèmes au niveau de la nidification. C'est aussi pour ça que des tailles printanières sont vraiment déconseillées. Parce que, bien sûr, tous ces passereaux qui s'y mettent dedans eh bien, seront dérangés, voire avec une destruction du nid, et puis ce n'est pas la bonne période.
Pour terminer, Jean-Pierre, en tant que paysagiste, quelle est votre haie parfaite, votre haie coup de cœur ? On a bien compris que ce n'était pas le tuyau.
Ben, si je devais installer une haie chez moi, je pense que le mieux, celle que j'apprécie le mieux, c'est un grillage, un double fil, une clôture sur laquelle on va implanter du lierre. Parce que ce lierre, encore une fois, eh bien, c'est un élément qui est vivant, qui garde ses feuilles durant tout l'hiver. Ça donne une super protection pour toute la faune, bien sûr. Et puis, à la taille, c'est une haie qui fait 20-25 cm de large, pas plus. Ça pousse pas énorme durant la saison. Si vous faites une erreur dans la taille et puis que vous y avez fait un petit trou, eh bien, ça va même pas se voir. C'est pas comme une autre haie, comme de l'if ou du fotinia ou voilà. Et puis, étant résistant vert, je trouve que c'est le meilleur pare-brise pour un coût raisonnable avec une super clôture dedans. Et puis, ça vous donne une double protection, soit la clôture et en plus le pare-brise.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Et puis si vous voulez chez vous une haie magnifique, n'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels qui sont de très bons conseils. On va répondre à vos questions d'ailleurs. Si vous avez des questions jardinage, ça se passe comme ça, Steve.
Alors il y a le numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler comme ça, on parle en direct et on peut nuancer nos propos. 0900 70 20 20, vous nous appelez dès que vous le voulez. Vous pouvez également nous envoyer un SMS au 939 ou juste mettre le mot jardin au début de votre message. Et vous pouvez également toujours remplir les formulaires en ligne disponibles sur nos sites internet avec possibilité d'ajouter une photo.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes donc là tous les samedis en compagnie d'un professionnel pour répondre à vos questions. Ce matin, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Et si vous voulez lui poser des questions, on va vous dire comment faire.
C'est très simple, vous pouvez nous envoyer un SMS au 939, vous tapez « jardin » au début de votre message, vous mettez votre question, votre prénom et vous envoyez ça au 939. Vous pouvez également trouver des formulaires sur nos sites internet, vous vous servez, en plus vous pouvez ajouter une photo. Et puis sinon, vous nous appelez maintenant, ça nous fait plaisir de vous entendre, de discuter un peu avec vous jardinage. Le numéro est très simple, 0901 70 20 20, 0901 70 20 20.
On va parler pommes de terre, Jean-Pierre, si vous le voulez bien, avec cette personne qui nous dit « Les feuilles de nos plantes de pommes de terre ont des taches brunes, faut-il les traiter avant la récolte ?»
Il n'y a pas à traiter le feuillage à cette période parce que bien sûr on est en fin de production de rhizomes de pommes de terre et puis de toute façon la pomme de terre est en train de se durcir et puis on peut même les récolter déjà maintenant. Il serait stupide d'intervenir avec un phyto sur ce feuillage. Par contre bien sûr on serait dans le courant du mois de mai ou juin, à ce moment-là il faut vraiment entretenir ce feuillage qui soit de qualité parce que c'est ce feuillage qui va vous produire ce rhizome de pommes de terre et puis sans feuillage vous aurez quasi rien. Mais à cette période, il n'y a plus de soucis. On peut même déjà les arracher gentiment, je pense, et puis laisser s'épanouir cette pomme de terre pour la récolte future.
On a une autre question qui nous est parvenue. Quelques coins sont tombés de l'arbre. Ils sont petits et loin d'être mûrs. Est-ce qu'il faut les garder et ils vont mûrir ou ça ne sert à rien et je les jette au compost?
Oui, ça arrive sur le cognassier que quelques-uns tombent au préalable et puis on se pose des questions. Mais non, à l'évidence, je pense qu'il faut les jeter, il faut pas les garder. Parce que c'est des fruits qui ont outé, en fait, qui ne sont pas arrivés à maturité et puis vous arriverez pas à trouver les saveurs nécessaires pour dégager soit de la goutte ou de la gelée. D'autant plus que le coin, quand il donne, il y en a des quantités en abondance. Et puis on sait très bien que même pour une eau de vie, c'est les meilleurs fruits qui vous donneront la meilleure eau de vie. Et puis tout ce qui est de petits calibres verts non colorés, non, ça ne vaut pas la peine de les conserver.
J'aimerais juste qu'on revienne sur un terme que vous avez cité, Jean-Pierre. Vous avez utilisé le mot « outé ». Ça veut dire qu'un fruit tombe en août, c'est trop vite pour lui, c'est ça?
Oui, c'est que prématurément, il n'arrive pas à maturité. Soit le végétal en avait un peu trop, soit il a été blessé par soit des parasites, soit de la grêle ou des choses comme ça, et puis il chute prématurément. Ce qui arrive aussi souvent, c'est dans les autres fruits comme la prune ou la pomme, Tout ce qui est des vers qui ont été chenillés par le carpocaps, eh bien, il y a une chute prématurée. L'arbre se rend compte en fait qu'il n'arrivera pas à maturité de maintenir ses fruits et puis les laisse tomber. Et puis ça permet également aux parasites, bien sûr, de finir sa mutation et puis de rentrer dans le sol pour la génération de l'année d'après. Alors on aime aussi bien les ramasser pour éviter cette multiplication de parasites. Mais de toute façon, les carpocaps, ils sont en tel nombre que même si vous ramassiez tous vos fruits qui sont chenillés, qui tombent sur vos arbres, l'année d'après, c'est à peu près sûr que vous aurez encore et encore.
Une autre question, celle-ci, quand est-ce qu'on peut récolter les noix ?
Ben, la noix, c'est un fruit qu'on va ramasser, bien sûr, parce qu'en général, c'est des grands sujets qui permettent en tout cas pas la taille et puis la cueillette, pardon. Et puis, il est plus facile de les ramasser au sol. On sait que quand le fruit il est tombé, c'est que la broue a fini sa maturité. La broue, c'est la cosse dans laquelle se trouve la noix. Et puis, une fois au sol, vous la ramassez. Ça permet de nettoyer cette broue, laisser sécher vos noix pour une conservation durant l'hiver et puis en profiter pleinement.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour toutes ces précisions. Moi personnellement, je me réjouis de les ramasser, toutes ces noix. Et puis on va se retrouver dans un instant pour la suite et la fin des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières continuent, on va continuer de parler avec notre invité Jean-Pierre Ribaud de Ribaud Paysages à Queux. Vous pouvez toujours aussi nous appeler si vous avez une question, mais il faut le faire rapidement, hein. 0900 70 20 20, dépêchez-vous si vous voulez nous appeler. On a encore une dernière question à vous suggérer, Jean-Pierre, ça concerne la mélisse, cette question qui nous dit « il y a énormément de mélisse dans notre potager, à part les arracher à la main, que faire ?»
Oui, alors la mélisse, c'est une de ces plantes qui a des racines traçantes, comme la menthe, comme le chiendent. Et puis, quand vous avez eu le malheur d'en planter un pied dans votre potager, si vous n'avez pas pris des mesures particulières à la plantation, ce sera une plante qui va envahir très vite le carré dans lequel elle se trouve. Alors, si c'est le cas chez vous, et bien sûr, il n'y a que l'arrachage qui va permettre de diminuer ce pied, parce que, admettons que vous ayez la mauvaise idée de prendre un phyto pour la supprimer, diminuer cette touffe. Ce sera de toute façon un herbicide systémique qui va pénétrer par la feuille pour faire périr le pied. Et puis même si vous traitez que la moitié de votre pied, étant donné que c'est un systémique, il va être véhiculé dans l'ensemble du pied mère. Et puis c'est l'ensemble du pied mère qui va périr. Donc il n'y a qu'une lutte mécanique, oui, si vous voulez diminuer ce pied. Par contre, pour ceux qui auront envie de planter de la mélisse, de la menthe dans leur potager, dans leur coin d'aromatique, le mieux c'est de prendre soit un pot en terre cuite ou en plastique ou un tuyau ou faire en fait une protection de rhizome au niveau de la plantation de la terre. Donc vous pratiquez de la sorte, vous faites votre trou, vous mettez votre pot qui est vraiment de la grandeur que vous souhaiterez du pied futur de la plante aromatique. Une fois mis ce pot dans le terrain, vous le remplacez de terre, vous plantez votre plante en plein milieu, vous portez garde que le pot reste 2-3 cm au-dessus du niveau de la terre pour justement limiter, faire cette barrière de rhizome en fait, euh, pour contenir ce pied, et puis vous n'aurez jamais ces problèmes de colonisation de potager par la menthe ou la mélisse.
Merci beaucoup Jean-Pierre, il est déjà temps pour les jardinières de quitter le potager, enfin le potager radiophonique. Jean-Pierre, avant de vous laisser filer, dites-nous, on fait quoi ce week-end avec les températures qui ont baissé et la pluie qui a fait son grand retour ces jours?
Oui, alors un peu cultiver justement ces récoltes de potager. Au niveau des aménagements, on ne peut pas intervenir grand-chose parce que c'est très humide. Je pense que c'est un week-end plutôt light où il faut profiter de monter au champ.
Au champ du gros.
On va élaborer le champ du gros, on l'a bien compris. Jean-Pierre Ribaud, on rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie ce matin. On vous souhaite un bon week-end.
Mais pareil, merci à vous, puis bon week-end à tout le monde.
Les jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie de Cathy Racine, jardinière à Delémont. Et puis on attend vos questions, vous les posez à tout moment, soit en remplissant le formulaire sur notre site, soit par SMS en tapant jardin, un espace. Votre question que vous nous envoyez au 939. Bon week-end, Steve.
Bon week-end, Mylène, et bon week-end à toutes et à tous.
Et à samedi prochain.
7h, 8h, les jardinières.